Aujourd'hui, on va faire un petit hors-série pour ce moment de baptême. Je vous invite, on laisse notre série sur les rois, et puis on va dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. L'évangile de Jean, il a été construit autour de 7 grands miracles, 7 que l'évangéliste Jean appelle des signes. Et là, on est déjà au 5e, au chapitre 6, et on va lire simplement les versets 16 à 21. Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. » Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5-6 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce récit vient de cet évangile de Jean, mais on le trouve également dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Et dans ces deux autres évangiles, il y a beaucoup plus de détails. Le récit de Jean, lui, il est plutôt sobre et il est placé entre le miracle des pains, juste avant, dans le début du chapitre 6, où Jésus multiplie des pains pour 5000 personnes, 5000 hommes. Et juste après cela, eh bien, il y a le discours de Jésus sur le pain de vie. C'est la fin du chapitre, à partir des versets suivants, 22 jusqu'à la fin du chapitre. La traversée ici est juste placée à cet endroit pour nous expliquer un certain nombre de choses. Tout d'abord, la traversée nous aide pour comprendre la situation géographique. Le miracle des pains a eu lieu à Bethsaïda, c'est au nord-est du lac de Galilée. Et ils ont traversé, ils se sont retrouvés au nord-ouest, à Capernaum. Et c'est à Capernaum, dans la synagogue, que Jésus a donné ce discours sur lui-même, le pain de vie, qui a été cité dans le témoignage par Eduardo. Après le miracle des pains, il y a cette traversée. Cette traversée, elle nous explique aussi davantage encore sur la personne de Jésus-Christ. Le miracle des pains avait été l'occasion pour la foule d'être émerveillée et ils avaient fini par dire qu'il était un prophète. 10 verset 14, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et donc ils ont voulu le faire roi, c'est au verset 15 qui nous est dit ça. Et pourquoi ils veulent-ils le faire roi? Mais parce que quelqu'un qui nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, tout ça gratuitement, bon, on le veut au gouvernement, on le veut président, on le veut roi du pays. Le lendemain, à Capernaum, ils avaient encore faim. Alors ils ont cherché Jésus et quand ils l'ont trouvé, ils lui ont dit « Mais fais pour nous encore un miracle, des pains, du poisson, pour aujourd'hui. Et puis s'il te plaît, fais ça tous les jours et on va croire en toi. » Et Jésus à ce moment-là va faire son discours dans lequel il explique que ce dont ils ont le plus besoin, ce ne sont pas des pains pour nourrir leur ventre, mais un sauveur pour nourrir leur cœur. Jésus est plus qu'un boulanger qui distribue gratuitement du pain. Il est le pain véritable qui rassasie les cœurs. Et les témoignages exprimaient ça tellement fort ce matin. On voit bien que c'est Christ qui a rassasié leur âme, leur cœur. À la fin de son discours, la foule a compris qu'il n'y aurait pas de pain aujourd'hui. Du coup, ils l'ont laissé. À la fin du chapitre, verset 66, il est écrit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Alors Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a dit « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre répondit, verset 68, se faisant porte-parole de tous les disciples, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi sont-ils capables de dire une chose pareille ?» Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est certainement parce qu'ils ont traversé cette mer. Et pendant cette traversée, il y a eu une révélation de la personne de Jésus-Christ telle qu'ils se sont fortement attachés à lui, pas simplement à celui qui les avait nourris. Si vous connaissez une période de difficulté aujourd'hui, prenez courage. Jésus veut se révéler à votre cœur. Et au travers de ces circonstances, il va travailler dans vos vies. Notre croissance dans la connaissance et dans la compréhension du Seigneur se fait souvent au travers de souffrances, au travers de difficultés. C'est là que Jésus-Christ apparaît. On a encore entendu ça dans les témoignages ce matin. Et je vous propose de regarder ensemble maintenant la tempête du Seigneur. Et puis on verra ensuite la personne du Seigneur et enfin la barque du Seigneur. Regardons la tempête du Seigneur. Jésus ne veut pas être le genre de roi que la foule désire. Il ne veut pas être pour eux un meilleur Hérode, un meilleur roi. Il s'échappe au moment où ils veulent le faire roi. Et il se retire pour prier. Matthieu, qui développe cet aspect de l'histoire, écrit dans son évangile, chapitre 14, verset 22, « Aussitôt après, il les obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples partent donc sans lui. Et voilà que la tempête commence à se lever. Imaginez la musique qui va avec, là. C'est pas là, mais dans le film, ça doit y être. Les disciples qui sont des pêcheurs de poissons aguerris, qui connaissent parfaitement ce lac, commencent à voir les vagues se soulever, le vent coucher leur barque, les vagues frapper sur la barque, prêtes à tout défoncer. Et là, l'angoisse les saisit. Et il est écrit ici qu'il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Littéralement, les ténèbres étaient déjà là, mais Jésus n'était pas là. Les ténèbres sont souvent, notamment dans l'évangile de Jean, symbole de la confusion, de l'incertitude, des doutes, de l'angoisse. Et Jésus n'était pas là ce jour-là. Vous vous souvenez qu'ils avaient déjà connu une tempête similaire. Mais cette fois-là, Jésus était dans la barque, même il dormait à l'avant du bateau. Et quand ils sentaient qu'ils allaient périr, ils ont réveillé Jésus et Jésus a parlé au vent et à la mer. Et à l'instant, le calme est revenu. Mais cette fois, Jésus n'est pas là. Et la tempête se lève, le vent souffle, la mer se déchaîne. C'est une situation angoissante, d'incompréhension, la solitude, la peur. Les disciples sont dépassés, ils sont sans repère. Ils rament au propre comme au figuré. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront pas seuls. Il faut le dire franchement, ils ont aussi peur de mourir. Vous connaissez peut-être ce genre de crainte. Vous vous sentez seul. Vous ne comprenez pas pourquoi la situation est devenue si périlleuse. Une menace pèse peut-être sur votre vie, sur votre famille, sur votre santé, sur votre travail, votre avenir. Et c'est la nuit qui est descendue dans votre vie. La mer agitée est souvent le symbole du chaos, du désordre. On voit ça tout au long des Écritures. Au psaume 65, par exemple, au verset 8, il est écrit « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, et le tumulte des peuples. C'est-à-dire, il compare le tumulte des flots au tumulte des peuples. Dans le psaume 46, versets 3 et 4, il est écrit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Et puis Ésaïe, chapitre 57, verset 20, dit ceci « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » Si vous êtes familier avec l'Apocalypse, avec la bête monte de la mer, symbole du mal. Et en Apocalypse, chapitre 21 et au verset 1, et il est écrit que c'est le moment de la description d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et il dit « Et la mer n'était plus ». L'idée ici, c'est que il n'y a plus jamais le chaos, c'est définitif, la paix est totale et éternelle. Désormais. Mais vous vous souvenez que c'est Jésus lui-même qui les a obligés à traverser la mer. C'est la tempête de Jésus, au fond. C'est lui qui ordonne au vent et à la mer. Et si vous avez fait votre lecture du psaume 135 ce matin, vous avez lu certainement ces versets, verset 5. « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit des éclairs et la pluie et il tire le vent de ses trésors. C'est l'Éternel qui provoque cette tempête pour ses disciples, mais aussi pour nos propres vies. Mais Jésus-Christ sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et ses motifs, à lui, sont toujours purs, aimants, justes, sages. Aucune des situations de votre vie n'échappe au contrôle du Seigneur. Les tempêtes intérieures, l'angoisse, le doute, la solitude, les tensions du monde, et notre monde ne manque pas, de guerre, d'instabilité, le péché dont vous avez pu être victime, peut-être, sont sous son contrôle. Et elles nous amènent, d'une certaine manière, au bout de nous-mêmes. Elles renversent nos faibles assurances. Oui, la tempête du Seigneur est utile dans nos vies. Elle révèle que nous sommes fragiles, que nous sommes pécheurs, que nous sommes mortels. Regardons à présent la personne du Seigneur. Ils ont ramé ici 5 kilomètres environ et Marc et Matthieu disent qu'ils sont au milieu du lac cette fois-ci. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Certains ont suggéré que les disciples naviguaient en serrant la côte de près et qu'ils virent Jésus au bord de l'eau et non sur l'eau. Mais dans ce cas-là, on se demande pourquoi ils auraient été effrayés. Qu'est-ce qui peut leur arriver au bord de l'eau? Et pourquoi est-ce qu'ils seraient effrayés de voir Jésus marcher sur la rive? Non, ça n'a pas de sens. Il ne fait aucun doute que les auteurs des évangiles ont décrit cet événement comme un miracle, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse les lois physiques. Et souvenez-vous, Matthieu et Jean, qui écrit cet évangile, sont dans la barque ce jour-là, ou cette nuit-là. Le vent souffle, la mer est déchaînée, et Jésus marche. Il y a des heures que les disciples peinent à progresser, un tant soit peu, mais lui, par contre, il marche, et il marche aisément, malgré les grands vents. Marc rapporte que Jésus avance si rapidement qu'il donne l'impression à ses disciples qu'il va les dépasser. Il n'est pas affecté par les conditions météo. Il marche au travers d'une tempête, sur toutes les forces destructrices et sur les ténèbres. Il voit en pleine nuit. Il est stable. Il défie les lois de la gravité. Il est le Seigneur de la création. Et le Seigneur des lois de l'univers. Il n'est pas qu'un prophète, comme les la foule a pensé. Il est Dieu. Et toute la création lui est soumise. Et c'est pourquoi ils ont peur. Il y a quelque chose ici de plus terrifiant encore que la tempête. C'est Dieu lui-même dans sa sainteté. Oui, Dieu est redoutable pour l'homme pécheur. Les tempêtes se forment, si vous avez le même niveau en météo que moi, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de regarder le journal télé, vous savez que les tempêtes se forment généralement en raison de différences de température et de pression atmosphérique qui vont provoquer des mouvements d'air rapides associés à l'humidité de l'atmosphère. Et cela peut générer des vents violents, de la pluie, des éclairs, parfois de la grêle et des tornades. Et ce lac de Galilée est particulièrement accoutumé de ce genre de tempête. Le lac de Galilée, il est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer et il y a des montagnes tout autour qui montent jusqu'à 600 mètres et certaines jusqu'à 900 mètres d'altitude. Et donc quand ces masses d'air chaud et d'air frais se rencontrent comme ça, ça provoque une tempête. Et il y a un contraste énorme ici. Entre la personne parfaite de Jésus-Christ et des hommes pécheurs. Leur rapprochement provoque cette tempête. Dieu n'est pas simplement meilleur que nous. Il est parfait en sainteté et en justice. Et nous sommes définitivement des pécheurs et corrompus. Il n'est pas simplement plus fort que nous. Il est le Tout-Puissant. Et nous sommes sans force. Si nous ne comprenons pas ce phénomène, nous risquerons de faire comme la foule, c'est-à-dire nous allons élire Jésus comme président. Mais si nous comprenons qui il est véritablement, nous allons nous prosterner et adorer. Nous nous humilierons et nous tremblerons devant sa face. Mais regardez, ou plutôt écoutez ses paroles. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Littéralement, il dit, je suis, n'ayez pas peur. C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse lorsqu'il demandait, quel est ton nom? L'Éternel a répondu, je suis. L'Éternel ne peut pas dire j'étais. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il ne peut pas dire je serai. Dieu ne change pas. Il est. Aucun de nous ne peut dire une pareille chose. Dieu seul peut dire je suis. Il est éternel. Il ne peut pas changer. Et dans toutes les, et il est avant toutes les choses, et toutes les choses procèdent de lui. Il ne dépend ni de rien, ni de personne. Et nous, ne pouvons pas faire sans lui. Il est, je suis. En Jean, chapitre 18, Jésus emploie cette même expression lorsqu'il s'adresse aux soldats qui sont venus pour l'arrêter. Et il dit, c'est moi, je suis. Cette étonnante démonstration de sa puissance les a poussés à terre. Ils ont reculé, ils sont tombés à terre. Eux, ils venaient armés pour arrêter Jésus. Et Jésus a dit, je suis, ils sont tombés à terre. C'était la démonstration de qui il était. Et ça montre une chose très importante ici. Ça veut dire qu'il avait la capacité de détruire ses soldats d'un seul mot, d'une seule parole, d'un geste, d'un clignement d'œil. Et donc que ce n'est pas les soldats qui se sont emparés de Jésus, mais Jésus qui s'est livré aux soldats. Il l'a fait parce qu'il voulait accomplir le plan divin de la rédemption, impliquant qu'il donne sa vie en sacrifice. Jésus dit ici, c'est moi, je suis, n'ayez pas peur. À Moïse, il avait dit, je suis, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand il dit « Je suis » aux soldats, les soldats tombent de peur à la renverse. Mais ici, il dit « Je suis, n'ayez pas peur. » Quand Dieu, quand « Je suis » parlait sur la montagne avec Moïse, la montagne tremblait, il y avait du vent, des éclairs, c'était le choc du céleste et du terrestre. Et ce choc était tel qu'il a provoqué la tempête. Et le peuple était terrifié. Mais ici, il dit, je suis, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu sur la terre pour apaiser cette terrible tempête qui aurait provoqué notre destruction, notre mort, pour réconcilier le divin avec l'humain, le ciel avec la terre. Et comment le faisait-il ? À la croix, Jésus, revêtu de notre humanité, et prenant sur lui le poids de nos péchés, reçoit la foudre de la colère de Dieu que méritaient nos fautes, la mort. Jésus, ici-bas, a traversé toutes les tempêtes. Parce qu'il est Dieu, il pouvait ordonner au vent et à la mer de se taire. Il pouvait ordonner aux démons de sortir. Il pouvait guérir d'une parole n'importe quelle infirmité ou maladie. Il pouvait même ressusciter d'entre les morts. Mais cette tempête-là, c'est-à-dire le conflit entre la justice de Dieu réclamant la mort du pécheur et son amour désirant notre salut, il a choisi de la traverser lui-même. Cette tempête-là, la croix, où la justice de Dieu et son amour sont parfaitement réconciliés. Les pécheurs que nous sommes n'ont plus besoin de craindre la justice divine. Elle a été satisfaite et son amour parfait est démontré. Il peut dire « N'ayez pas peur » parce qu'il est le Sauveur. Si Jésus n'est pas Dieu, la croix n'a aucun sens. C'est une tragédie, c'est un suicide, c'est une nouvelle erreur judiciaire, mais rien de plus. Mais si Jésus est Dieu, cela signifie qu'il se donne lui-même. Puisqu'il a la toute-puissance de détruire les soldats qui sont venus l'arrêter, maintenant si Dieu a accepté de mourir sur la croix de la sorte, c'est qu'il a accompli par sa mort, quelque chose d'ultime, quelque chose de crucial, quelque chose de capital. C'est son plan pour sauver les pécheurs que nous sommes, nous, tout en préservant sa justice, tout en préservant son amour et démontrant sa sagesse et sa fidélité à ses promesses. Regardons maintenant la barque du Seigneur. Vous savez que vous avez compris qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir quand vous l'invitez dans votre barque. Elle devient alors la barque du Seigneur. La barque, c'est notre vie avec laquelle on traverse le lac de ce monde. La traversée est plus ou moins longue, plus ou moins agitée. Le tumulte, en tout cas, est souvent l'occasion pour le Seigneur de se révéler à nos cœurs. Et au verset 21, il est écrit ici, « Ils voulaient donc, puisqu'ils avaient entendu « C'est moi, n'ayez pas peur », ils voulaient donc le prendre dans la barque. » Ils ont compris. Ils n'ont pas à craindre la sainteté de Jésus. Ils peuvent le prendre dans leur barque. Et d'une certaine manière, le fait de vouloir le prendre dans la barque, c'est vraiment l'idée que on a une réponse à donner à Dieu. Et cette réponse, c'est « J'ai compris qui tu es et j'ai compris que tu es le Seigneur. Et j'ai compris aussi comment à la croix as-tu me réconcilié avec le Père. Alors, sois le souverain de ma vie, règne dans ma barque. » C'est d'ailleurs ce que firent les disciples. Matthieu rapporte au chapitre 14, verset 33, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et regardez la suite. La suite du verset 21, il dit « Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. » J'aime ça. C'est la suite du miracle, en fait. Aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Ils étaient l'instant d'avant au milieu du lac en perdition, juste après que Jésus ait mis le pied dans la barque. Le calme est revenu sur la mer et eux, ils sont arrivés au port, là où ils avaient choisi d'aller. Votre destinée est garantie. L'instant où vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Il ne vous aide pas à vous sauver, il vous sauve parfaitement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle ne commence pas à notre mort, mais au moment où l'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce dont Issam, Héloïse et Eduardo ont témoigné aujourd'hui. En se faisant baptiser. Celui qui prend Christ dans sa barque a réussi sa vie. C'est-à-dire, il sait où il passera l'éternité. Il sait qu'aucune des tempêtes de ce monde, de cette vie, ne pourra le détruire. Il est à Christ, le Seigneur est dans la barque. Vous comprenez peut-être ce matin qui est Jésus. Il est le Seigneur. Il est votre créateur. Et vous réalisez peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas tremblé à cette idée. Et vous réalisez aussi qu'il a donné sa vie pour vous sauver de la condamnation. La seule réaction qui convienne, c'est celle des disciples. C'est l'inviter dans votre barque et l'adorer. Le remercier. Vivre pour lui. Vous aviez peut-être déjà compris cette vérité et pris Christ comme sauveur, mais vous connaissez une tempête personnelle, des peurs, vous connaissez peut-être les ténèbres de l'incertitude, les vagues du découragement. Regardez à Christ. Il vient. Regardez comment il domine toutes les circonstances de vos vies, c'est lui qui les a permises pour se révéler encore à vos cœurs. Il vous dit, c'est moi, n'aie pas peur. Prions, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Parce que toi, le maître de l'univers, celui qui a créé tout ce que l'on voit, tu l'as démontré en marchant ce jour-là sur les eaux, dominant, Seigneur, les terreurs des disciples, maîtrisant, Seigneur, toutes les circonstances de leur vie, parce que tu voulais te révéler à eux comme le souverain, comme le Dieu vivant qui s'est abaissé, qui est descendu pour rencontrer les hommes pécheurs que nous sommes. Et puis, toi, tu as subi, Seigneur. Toi qui avais la force de stopper toutes les tempêtes, tu as choisi de subir cette dernière tempête, celle qui nous menaçait tous. La mort, la condamnation, tu l'as subi à la croix pour que nous n'ayons plus à la subir, pour qu'on puisse retrouver le calme, que l'on puisse arriver au port désiré. Dans la vie éternelle. Et Seigneur, on veut te louer pour cela. Je veux te prier pour que ce matin, ceux qui n'ont peut-être pas encore saisi ces vérités puissent donner leur réponse et t'inviter à monter dans leur barque, dans leur vie. Je prie aussi pour ceux qui, parmi nous, sont peut-être connaissent des bouleversements, des tempêtes, des choses qui leur font peur, qui les menacent. Une certaine détresse, Seigneur, de vie. Je prie pour qu'ils regardent à toi, qui tient le monde entier entre tes mains, qui connaît toutes choses de nos vies, et puis qui permet les tempêtes pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître, pour qu'on puisse te reconnaître comme le Seigneur de nos vies, pour qu'on puisse te faire confiance. Seigneur, bénis chacun de nous. Aide-nous à nous appuyer sur toi davantage. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen.